Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Allez, c'est parti. Aujourd'hui, podcast avec Olivier. Olivier, je suis très content de te recevoir parce que ça fait un moment que je m'étais mis dans ma petite liste de personnes que j'aimerais inviter. Et Olivier Bessy, sociologue du sport, loisirs, tourisme, professeur aussi. Tu as de multiples casquettes, mais aussi auteur de nombreux ouvrages. Je suis vraiment très content de te recevoir parce que la sociologie autour de la course à pied et du sport en général, c'est un sujet, je trouve, dont on parle finalement pas assez souvent, et je suis très content qu'on ait ce temps là ensemble pour que tu nous présentes toutes les études et tout ce que tu as pu faire depuis maintenant de nombreuses années autour de ce sport. Comment vas-tu, Olivier?
Très bien, pleine forme.
Bon, bah, on est en cette fin d'année et aujourd'hui on enregistre le jour de mon anniversaire.
Voilà.
Tu as un privilège quand même de recevoir de...
c'est mon cadeau.
Voilà, non, c'est le mien plutôt.
Mon cadeau pour toi, en fait.
Voilà, c'est ça. Alors Olivier, j'ai dit quelques mots déjà sur ce que tu fais, ce que tu es aussi un petit peu. Est-ce que tu pourrais, toi, à ton tour maintenant, te présenter, s'il te plaît?
Donc moi, je me présente d'abord comme un coureur à pied. Depuis 50 ans, je cours. J'ai une trajectoire tout à fait, je dirais, classique d'un coureur de 800 mètres, 1500 mètres quand j'étais jeune et crossman, pendant une dizaine d'années, entre grosso modo 15 et 25 ans. Et j'en ai 65 aujourd'hui. Et après, j'en ai eu un petit peu marre de la compétition autour d'un stade. Et j'ai épousé au début des années 80, fin des années 70, début des années 80, le mouvement émergent des courses hors stade, en courant, j'étais parisien à l'époque, les 20 km de Paris, Paris-Versailles, et puis j'ai continué durant les années 90, 2000 à faire des marathons. J'ai fait le marathon du Médoc en 1985, c'était mon premier marathon, enfin pas en 85, en 89, pardon, quand je suis arrivé à Bordeaux, j'étais à Paris au début, et j'ai enchaîné une cinquantaine de marathons et des semi-marathons. Et après, quand je suis arrivé à La Réunion en 2000, j'ai vraiment plongé dans la course nature et le trail, et j'ai fait le Grand Raid de La Réunion la première fois en 2000 et une deuxième fois en 2001, ce qui m'a donné envie d'écrire mon premier livre sur le Grand Raid, qui date de 2002. Sachant qu'en 94, j'avais écrit un bouquin sur le marathon du Médoc qui s'appelait 10 ans de fête, parce que je trouvais que c'était un bel événement aussi, très original. Et le Grand Raid, j'ai trouvé aussi ça très, très chouette, parce que c'était très, très ouvert, très accessible, très, très identitaire par rapport à Lille. Et je suis resté 8 ans à La Réunion et j'ai épousé la vague émergente du trail, donc dans les années 2000, pardon. Et après, quand je suis rentré à Pau, je me suis intéressé à l'ultra-trail du Mont Blanc et je continue à courir des ultras un peu partout dans le monde. J'ai une dizaine d'ultras à mon actif et une cinquantaine de trails courtes et moyennes distances. Et puis là, depuis 2018, où je me suis pété le tendon du quadriceps, j'ai arrêté la compétition parce que je pense que j'avais trop tiré sur la corde, comme on dit. Trop tiré sur le tendon, et maintenant je me contente de courir pour le plaisir, le bien-être, la forme, l'émerveillement, des belles couleurs du soir, une respiration, presque une méditation. En privé des gens, toujours quand même la course en milieu naturel, dans la campagne paloise, mais aussi beaucoup sur les coteaux et dans la montagne pyrénéenne. Voilà, pour faire simple, et je continue à écrire des choses sur la course à pied. Voilà.
Ça te manque pas, l'ultra ?
Si, ça me manque. À chaque fois que j'y vais, notamment là, j'étais à La Réunion ces dernières années pour sortir donc le bouquin, mon deuxième bouquin sur la Diagonale, le congrès de La Réunion, une folle Diagonale qui est sorti en octobre 2023. J'y suis revenu donc dès 2022 pour m'immerger de nouveau dans la course, en allant sur des endroits que j'aimais bien, des endroits un peu abrités du monde, des endroits extrêmement nature, très très exotiques, dans le cirque de Mafate notamment, ou dans la montée du Taibit à Sillaos. Et c'est vrai que ça, quand je les vois ou quand je vais au départ ou quand je suis à l'arrivée, ça manque, c'est clair. Ça manque parce que c'est dans l'ultra, on crée un lien avec l'environnement naturel et humain, c'est-à-dire avec les autres coureurs, avec les bénévoles. C'est un ravitaillement qui est extraordinaire parce qu'on finalement on est dans une temporalité qui est tellement longue qu'elle nous permet de prolonger cette immersion et d'être en résonance le plus longtemps possible avec soi-même, les autres et la nature.
Alors j'aurais des dizaines de questions et c'est souvent le cas en fait quand mes invités commencent à se présenter. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet concernant le Grand Raid spécifiquement de La Réunion. On tout connaît quand on gravite dans ce milieu, on connaît tous des coureurs qui vont 3, 4, 5, plus de 10 fois, 15 fois, 20 fois hein, pour certains. Pourquoi est-ce que ces coureurs-là y retournent chaque année? Qu'est-ce qui fait que... Parce que moi, j'avais fait un petit calcul rapide que j'aime bien faire. Quand on est ultra-trailer et qu'on aime ce sport, on peut difficilement, quand on a une vie sociale classique, qu'on travaille, et qu'on a des capacités physiques qui sont celles dont sont lotis la maximum de coureurs, on peut faire difficilement plus que 2 à 3 ultras par an. Admettons que on commence à 30 ans, si on tient jusqu'à 60 ans, ça fait qu'on peut en faire 60. Si on en fait 60 dans sa vie, pourquoi retourner faire tout le temps le même? C'est un truc qui m'intrigue un petit peu. Et pourquoi est-ce que cette course spécifiquement, les coureurs y retournent autant de fois?
Ta question est excellente et je me la suis aussi posée, comme tu l'imagines, même si moi j'ai commencé l'ultra finalement assez tardivement. Hein. J'aurais voulu que les ultras existent plus tôt, ça me convenait parfaitement bien. Et je regrette, tu vois, d'avoir fait mon premier ultra qu'en 2000 et n'avoir eu que 15 ans, alors que j'aurais voulu commencer beaucoup plus tôt. Tu vois, j'étais déjà relativement âgé, hein, puisque je suis de 58, donc j'avais déjà un certain âge. Alors, pour répondre vraiment à ta question, je pense que, et je l'ai remarqué hein, en analysant les résultats du Grand Raid depuis sa première édition en 89, il y a effectivement beaucoup de personnes, il faudrait que j'arrive d'ailleurs à sortir les stats précises là-dessus, qui l'ont fait de nombreuses fois, et je pense qu'on y reviendra après, mais moi je serai pour une limitation du nombre de fois, même si ça peut choquer, dans la mesure où si les gens reviennent tellement cet événement, c'est qu'à la fois il contient intrinsèquement des atouts que d'autres n'ont pas, et que parallèlement, vu son niveau de notoriété, les bénéfices symboliques engrangés par la participation à cet événement sont tellement forts que les gens en arrivent à chercher à le faire plusieurs fois et à le privilégier malgré son coût temporel, financier, son éloignement, malgré parfois une distorsion entre ses exigences écologiques et le fait d'être obligé de prendre l'avion pour aller le faire. Je pense à tous les métros hein, qui reviennent plusieurs fois. Donc voilà, les qualités intrinsèques, c'est bon, un environnement unique au monde, ça c'est clair. Mais quand j'ai fait passer dans une centaine d'interviews donc sur les coureurs de l'édition 2022, certes donc l'esthétique des lieux sort souvent hein, il arrive en deuxième position dans les imaginaires qui sont mobilisés par les coureurs, mais ce qui sort en premier, c'est le plaisir à faire cette course. À la fois le plaisir individuel du bonheur, de la jouissance d'être au départ de le finir et de vivre cette expérience tropicale, mais aussi le plaisir partagé, c'est-à-dire le plaisir partagé avec les autres coureurs, parce qu'il y a vraiment pas de compétition entre les coureurs, il y a plutôt une forte entraide, une forte solidarité, mais aussi le plaisir partagé avec tous les habitants qui sont bénévoles sur cette course ou simplement spectateurs, puisque quand le Grand Raid a lieu, c'est toute l'île qui s'arrête et se met au diapason de l'événement, c'est toute l'île qui vibre pour cet événement et pour tous les coureurs, je les considère comme, tous comme des frères de course, des frères de raid, voilà, c'est l'âme de la Réunion et du coup, les coureurs, quand on les interviewe, je pense aux extérieurs, c'est ce qui sort en premier, ce plaisir partagé, voilà. La dimension d'avoir réalisé une épreuve extrême est bien entendu présente. C'est un défi, c'est quelque chose qu'on pensait pas réaliser et qu'on arrive à faire. C'est quelque chose qui est fort sur le plan de l'intensité. C'est une forme d'intensification de son existence grâce à cette épreuve-là. Bien entendu, tout ça, ça sort, mais c'est complètement relié à tout ce plaisir partagé et à toute cette esthétique tropicale, quoi, voilà, qui fait que la notoriété de l'événement est telle.
Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est exactement ce que j'ai vécu. Ça fait 3 fois que je vais à La Réunion et autant le côté paysage. Bon, la toute première fois que tu arrives et que tu vois le cirque de Mafate, tu fais un grand waouh qui arrive instantané. Ouais. Tu te prends le truc dans la tronche et ça s'était fait waouh. Ouais. Après, quand tu y retournes 3 fois, 4 fois, 5 fois, il y a moins cet effet waouh.
Sûr. Hein? Moi, je te dis que la personne qui découvre l'île pour la première fois grâce à cet événement, mais c'est tout simplement extraordinaire, tu vois. Moi, j'ai connu l'île avant. J'ai participé la première fois quand je suis allé y habiter en 2000, je suis allé travailler. J'ai eu une mutation là-bas, mais j'avais été en vacances 3-4 ans avant, donc j'avais connu ces lieux avant. Mais je me dis que, et j'ai discuté avec des coureurs qui y allaient pour la première fois. Avant, j'ai discuté avant avec eux, et puis une fois qu'ils avaient fini, et ils m'ont dit effectivement ce que tu nous avais dit est juste. Découvrir l'île pour la première fois, rentrer dans le Cerro de Mafate ou avant pour la première fois de découvrir la plaine des sables et le volcan, c'était tout simplement merveilleux, quoi.
Et pourtant, le trail, son évolution, tu en parlais, autant le côté distance, toujours plus, côté aussi qui se mêle avec le côté écologique, sociologique qui évolue aussi. Ça s'est quand même sacrément développé dans notre société aujourd'hui. Et on prend souvent cet exemple de il y a quelques années encore, quand on faisait 2 marathons par an, on était quelqu'un d'assez fou, et puis les professionnels de santé ne recommandaient pas d'en faire plus. Aujourd'hui, on est un peu dans le toujours plus pour certains. Oui. Comment est-ce que tu as vu cette évolution?
Mais disons que le toujours plus, hein, le toujours plus d'ultra, le toujours plus de distance, le toujours plus de dénivelé, le toujours plus loin, c'est les valeurs de l'hypermodernité. Et l'hypermodernité, c'est le paradigme sociétal qui nous gouverne aujourd'hui. Hein, c'est une forme de démesure, de surenchère permanente, d'illimitisme. Hein, c'est courir sans limite, c'est le titre de mon tome 2 là. Courir de 68 à nos jours, c'est ce qui pousse les gens dans leur mode de consommation en général, c'est ce qui les guide, et dans leur mode de consommation sportif en particulier, et dans la course à pied d'une manière encore plus précise, et dans le trail de manière encore plus forte, et notamment dans tout ce qui est ultra, quoi. Donc on est bien dans cette dimension-là, aujourd'hui, qui reste extrêmement dominante, hein. C'est vivre l'expérience la plus intense, la plus extrême, celle qui va nous permettre de garder des souvenirs inoubliables toute notre vie, qui fabriquent en nous comme une espèce de tatouage intérieur. Donc voilà, c'est ça qui est dominant aujourd'hui, mais on s'aperçoit que la société, elle évolue aussi et que l'hypermodernité, elle est travaillée aujourd'hui à ses marges pour l'instant, par d'autres valeurs qui commencent à poindre autour de l'authenticité, du sens de ce que l'on fait, de la spiritualité, de la sobriété. Donc on va... et de la protection de l'environnement. Donc, on va du coup chercher à peut-être être moins dans le toujours plus, mais plutôt être dans le mieux. Hein. On va en faire moins, mais on va les faire mieux. On va voyager, mais on va rester plus longtemps dans les endroits où on va. Donc, ça rejoint les nouvelles modes de consommation, les nouvelles formes de voyage, où on veut continuer à profiter, mais différemment, en évitant d'être dans toujours plus. Voilà.
Et dans le sujet toujours plus, il y a un sujet qui en ce moment là affole un peu les réseaux sociaux. C'est le sujet du prix des dossards, notamment pour les courses les plus célèbres et renommées. Il y a une nouvelle pratique, notamment qu'a adopté les Templiers, qui est de mettre un dossard finalement à un prix peu cher, entre guillemets, pour les X premiers coureurs. Puis après, le prix, hop, il s'envole pour les suivants. Ça affole un peu les réseaux sociaux. Et puis, quand on voit l'UTMB qui est voisine les 400 euros.
Je crois qu'ils sont à 450 cette année, non ?
Je crois que c'est 398, mais je me trompe peut-être. Ouais. Enfin, on y viendra aux 450. Ouais. Je leur fais confiance. Et finalement, les courses sont quand même pleines, remplies. Est-ce que ce sujet, c'est finalement un vrai sujet ? Est-ce que c'est un vrai sujet ? Parce que comme c'est plein.
Oui, c'est bien sûr que c'est un vrai sujet. Pourquoi ? Ben, pour deux raisons. La première, c'est que si le prix des dossards augmente, c'est que forcément les gens qui organisent, pour beaucoup, ils se disent il y a une forte demande, je peux augmenter le prix, cette demande, elle sera toujours là. Si on prend l'UTMB, c'est clair, ils ont beau augmenter le prix, il y a toujours de plus en plus de monde qui se bouscule au portillon. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ces événements ont atteint une telle notoriété qu'ils n'ont plus de prix. Et que les gens sont prêts à payer n'importe quelle somme pour avoir un dossard et le terminer et pouvoir dire j'ai fait du TMB. Parce que les bénéfices de cette réussite sont incommensurables et socialement extrêmement valorisés. Donc voilà, c'est beaucoup plus difficile pour le petit trail de Petaouchnok qui lui n'a pas la même visibilité dans les médias et va être beaucoup moins valorisant socialement. Donc, pour tous les événements qui ont une forte notoriété aujourd'hui, ils n'auront aucun problème à augmenter le prix des dossards, aucun problème à avoir des bénévoles, parce que les gens sont fiers d'être sur un événement qui est autant médiatisé. Donc, il y a vraiment des catégories différentes aujourd'hui d'événements dans la course à pied et dans le trail, qui fait que les gens peuvent se permettre d'augmenter les prix. Voilà. Après, les coureurs, c'est eux qui font les choix finaux, mais il y a l'inscription à la course, il y a aussi tous les équipements associés. Le budget d'un ultra-trailer aujourd'hui, il est quand même élevé, quoi.
C'est qui l'ultra-trailer ?
Hein ?
C'est qui l'ultra-trailer ?
Ah ben, déjà, il se définit au pluriel, mais il a quand même des caractéristiques sociologiques qui sont assez intéressantes à pointer parce que elles ont évolué sur les 20 dernières années où l'ultra s'est quand même développé, donc des années 2000-2010 et là encore au début des années 2020, c'est majoritairement un homme. Je parle sur les ultras, hein. On est à 12% de femmes sur le Grand Raid de la Réunion et sur le TMB depuis 20 ans, ça bouge pas. Bien entendu, moins la distance va être forte entre elles et plus les femmes vont être nombreuses. Plus ça s'extrémise et moins il y a de femmes. Et on culmine à 10-12%. Voilà. Au début, elles étaient absentes. Elles sont venues sur des territoires masculins, mais ça se stabilise aujourd'hui. J'explique tout ça dans le dernier bouquin sur la diagonale. C'est, finalement, elles ne se pensent pas capables de faire cette chose-là. Socialement, une espèce de barrière culturelle qui les empêche d'aller sur ce registre-là, qu'ils considèrent encore davantage comme quelque chose de masculin. Ce n'est ni un obstacle physiologique, ni un obstacle temporel, ni un obstacle financier, même si ces deux obstacles peuvent jouer. La raison principale, elle est dans une forme de résistance culturelle. Ça, c'est pour le genre. Sur les catégories d'âge, ce qui est très intéressant à observer, c'est une évolution du effectivement un élargissement de la base de recrutement et un effet générationnel. Toutes les catégories d'âge aujourd'hui sont représentées avec deux principales évolutions, c'est-à-dire la principale, c'est les plus de 50 ans qui aujourd'hui ont énormément progressé et les moins de 30 ans aussi, mais beaucoup moins. C'est-à-dire que l'effet Jornet joue beaucoup moins. Sur les deux tracks que j'ai étudiés, les moins de 30 ans, c'est 5% d'augmentation, alors que les plus de 50 ans, c'est 15% d'augmentation. Ce qui fait que la tranche 30-50 reste dominant, les quadras, évidemment, mais elle a baissé en pourcentage. Elle est moins hégémonique qu'hier. Et troisième variable sociologique, la catégorie socio-professionnelle, où là, bien entendu, il y a eu une diffusion sociale. Ce n'est plus réservé uniquement aux CSP+, aux CSP favorisés, aux professions libérales, cadres sup et chefs d'entreprise, bien évidemment, mais on a malgré tout, vu le coût financier de ces événements, même si des gens peuvent faire des sacrifices, des gens modestes peuvent faire des sacrifices pendant un an pour se payer le voyage à La Réunion, on a quand même une sous-représentation des catégories sociales populaires et une sur-représentation des catégories sociales favorisées. C'est-à-dire que même si on a des employés et des professions intermédiaires, la probabilité qu'ils soient présents est beaucoup moins forte par rapport à ce qu'ils représentent dans la population. Et on a très peu d'ouvriers, on n'a quasiment pas d'agriculteurs, alors qu'on a beaucoup de professions libérales, de kinés, de médecins, de chirurgiens, des chefs d'entreprise. Donc voilà, il y a à la fois de la diffusion sociale et à la fois encore des fortes inégalités dans l'accès à ces événements.
C'est d'ailleurs une donnée qui me surprend parce que quand on est chef d'entreprise, chirurgien, médecin, enfin, c'est des professions qui sont réputées pour prendre quand même beaucoup de temps, passer beaucoup de temps au travail. Et pourtant, pour préparer un ultra, il en faut du temps. Donc c'est pas si évident que ça en fait, même si on a les moyens, on n'a pas forcément le temps, c'est pas toujours ça m'a toujours surpris
surprise est légitime. Après quand on essaye de comprendre pourquoi les choses se passent différemment et qu'on utilise la sociologie comme éclairage, on arrive à être peut-être un peu moins surpris et à comprendre comment les choses se passent. Dès les années 90, au milieu des années 80, les premiers grands marathons, je pense à celui de Paris, comme celui de Médoc, qui ont vraiment progressé énormément, ont été très investis par les catégories professionnelles dominantes. C'est-à-dire que je pense à un article de Jean-Michel Faure dans la revue Esprit sur le marathon de Paris qui date de 1985. Il montre déjà que ce marathon-là, il est vraiment de manière extrêmement dominante. Les participants sont des personnes issues des milieux sociaux favorisés. Pourquoi ? Ça rejoint ce que les analyses d'Anna Ehrenberg sur le culte de la performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce de transfert chez ces catégories-là de la production de leur existence, que ce soit dans le travail, où on va rechercher à être performant, comme dans le loisir, dans le marathon et dans les ultras, qui constituent une espèce de prolongement à la façon dont on se pense, et notamment en étant le plus performant possible. Et ces courses fonctionnent sur une logique de la performance. Et ces personnes-là vont extrêmement se valoriser parce qu'elles se pensent comme ça, alors que les autres se pensent moins, les catégories défavorisées se pensent moins comme ça. C'est pas qu'une question d'argent, c'est où tu places le curseur. Qu'est-ce qui est la norme pour toi? Qu'est-ce qui a du sens pour toi? Qu'est-ce qui te valorise? Donc ces personnes-là, à partir du moment où ça a du sens socialement, culturellement, elles vont se donner les moyens. C'est-à-dire qu'à la limite, moins t'as de temps, moins t'as de temps, mais plus tu vas t'organiser pour en avoir. C'est-à-dire qu'il y a des marathoniens ou des trailers qui n'hésitent pas à se lever à 6h du matin pour aller courir jusqu'à 9h. Parce que ce sacrifice temporel-là, il a tellement de sens, il va tellement dégager de bénéfices derrière, qu'on va le faire. Le temps est élastique, le temps est très relatif. Profession libérale, il peut commencer à l'heure qu'il veut le matin, il peut se prendre un créneau entre midi et deux le temps qu'il veut et il finit plus tard le soir. Et pour faire les déplacements sur les événements, il se met en vacances comme il veut. Donc, certes, il travaille beaucoup, mais il a une maîtrise de son temps qui est nettement supérieure. Et c'est ça qui fait que le paradoxe tombe.
C'est hyper intéressant parce que ça met en perspective un petit peu tout ce qu'on peut voir comme ça d'un premier abord. Est-ce que tu dirais que les sociétés se sont aussi adaptées et comment est-ce que les territoires aussi s'adaptent face à l'expansion du nombre d'événements aussi qui est en train de se produire. On en parlait un petit peu en off, il y a de plus en plus d'ultra. Comment est-ce que la société, de manière générale, s'adapte à ça?
Alors, il y a l'adaptation de la société, l'adaptation des territoires. On peut essayer de... Alors, forcément, ces deux adaptations sont liées parce que le territoire est dans la société, mais si on prend l'adaptation finalement à la demande sociétale, l'offre aujourd'hui, elle correspond à cette demande de performance, d'extrême, d'intensité, de son mode d'existence, de passer d'un coureur ordinaire à un coureur extraordinaire, hein, ce que j'explique dans les bouquins sur la Diag, à un héros, en somme. C'est le processus d'héroïsation de la vie ordinaire. Sortir de la monotonie de sa vie quotidienne. Donc cette réponse-là, elle est fournie aujourd'hui par l'offre pédestre, hein, que ce soit sur les marathons, les ultra-marathons, les ultra-trails. C'est un premier point. Sur le plan territorial, ce qui est intéressant à observer, c'est que avec l'hypermodernité, l'offre a répondu à la demande, mais les territoires se sont aussi adaptés dans la mesure où la concurrence des territoires entre eux, liée à cette logique économique de la performance, elle concerne aussi les territoires qui se sont retrouvés dans l'obligation finalement d'augmenter leur attractivité touristique et résidentielle pour devenir des territoires à la fois fréquentés dans les périodes touristiques mais aussi habités pendant toute l'année pour pas être trop mort dans les mortes saisons. Et on se sont dit que l'événementiel sportif, c'était un bon moyen. Et pas que l'événementiel sportif compétitif au niveau ultra-médiatisé, type Tour de France, Jeux Olympiques, parce qu'on sait que c'est réservé d'abord c'est ponctuel et que c'est réservé qu'à certains lieux, qu'il faut payer très cher pour les avoir, mais plutôt ce que j'appelle des événements participatifs, ouverts au plus grand nombre, patrimoniaux, identitaires, c'est-à-dire pensés par rapport à l'identité d'un territoire, le Natural Games à Millau, le FIS à Montpellier, l'Ultra Trail du Mont Blanc à Chamonix, le Grand Raid à la Réunion et plein d'autres encore qui finalement font quoi habiter un peu d'élite mais surtout beaucoup de masse. Les champions représentent que 5%. Et à travers ces événements-là, finalement, les territoires, ils rentrent dans cette compétition hyper moderne en utilisant des techniques de marketing territorial pour finalement vendre leur image, améliorer leur image, leur notoriété, grâce à cette dynamique événementielle. Donc, ça fait 30 ans qu'on est dans cette dynamique-là, sauf qu'aujourd'hui, bien entendu, l'approche du marketing, elle continue, mais elle est de plus en plus concurrencée. Il y a une forme de tension aujourd'hui dans les territoires entre des événements extrêmement marketés pour valoriser le territoire et des événements qui vont plus être éco-responsable. C'est-à-dire que chaque territoire est confronté à une équation qui est attractivité sur durabilité. Si je deviens trop attractif, si mes événements amènent trop de monde, je nuis à ma durabilité parce que j'augmente l'empreinte écologique très fortement pendant la durée de ces événements. Donc comment aujourd'hui repenser l'équation entre attractivité et durabilité en continuant à organiser des événements qui vont améliorer ma notoriété, mais tout en préservant la durabilité de mes ressources. C'est la nouvelle équation qui aujourd'hui est de plus en plus travaillée, et on le voit bien à travers des événements qui cherchent à être plus écologiques, plus inclusif, plus éthique. Arrêter de faire toujours plus pour penser à faire moins mais mieux.
Ouais, ça c'est la tendance de l'organisation d'événements et notamment sur les lots participants où oui. On demande maintenant au coureur est-ce que tu le veux, est-ce que tu le veux pas, et il paye un peu plus cher s'il le veut.
Exactement.
C'est ce genre de choses qu'on observe.
Tout à fait.
Pourtant,
je vais t'expliquer sur l'écologisation de la course à pied.
C'est vrai que on dit hein, souvent la course à pied, c'est finalement souvent tu prends un short, un t-shirt, une paire de baskets et roule. Mais en fait, en réalité, c'est bien plus que ça.
Hein. Ça dépend de quelle course à pied on parle. Le jogger, faut quand même pas oublier aussi de remettre les choses à leur place et de relativiser les nombres. Aujourd'hui, si on croise toutes les statistiques sur la course à pied, on est grosso modo entre 12 et 18 millions selon les enquêtes qui sortent. Moi, j'ai tendance à prendre un ratio au milieu à 15 millions de coureurs. Et encore, c'est difficile à dire parce que ces coureurs, c'est aussi souvent des randonneurs, des gens qui font du vélo. Donc, tu les comptes où? Tu les comptes dans la rando, dans le vélo, dans la natation, dans le triathlon, dans la course à pied. Bon, admettons qu'il y ait 15 millions de gens qui courent assez régulièrement en France. Le nombre de compétiteurs, tout confondu, hein, marathonien, ultra-marathonien, trailer, ultra-trailer, tout ce que tu veux, il dépasse pas les 3 millions. Donc, on n'est quand même que sur 3 millions de gens qui s'équipent beaucoup. Les 12 autres millions, ils peuvent aller faire un jogging dans le parc de leur cité à moindre coût. La majorité des coureurs ne dépensent pas beaucoup d'argent pour courir. Une minorité de compétiteurs, oui. De compétiteurs et de performeurs. Hein. Quand je dis sur les 3 millions, c'est compétiteurs et performeurs. C'est-à-dire des gens qui s'inscrivent à des événements pour réaliser une performance auto-centrée, c'est-à-dire par rapport à leur objectif et leurs ressources à eux, et pas forcément normaux référencés comme les compétiteurs. Moi, je fais la différence entre la performance du compétiteur qui est référencé à une norme chronométrique, à des tablettes de temps. Voilà, je me classe, je bats le record, voilà. Et la performance autoréférencée qui n'a de sens que par rapport à toi-même.
On parlait d'environnement. Il y a des choses qui viennent comme ça, comme je l'ai cité, de façon presque automatique et qui viennent tout de suite en tête, notamment sur le choix du t-shirt. Je recevais récemment l'organisateur du Marathon des Sables sur le podcast.
C'est qui, moi et c'est plus Boer, c'est ça?
Non, c'est Cyril Gauthier maintenant, qui a repris la main et qui était donc lui à la tête du Half Marathon des Sables. Il a fait partie de l'organisation du Marathon des Sables pendant longtemps aussi. Et en fait, il nous expliquait que justement sur le sujet de l'environnement, parce que le Marathon des Sables, c'est quand même un événement qui a un impact assez important, il avait des actions de prévention et pour réduire l'impact que les participants ont durant l'année. Et c'est des choses comme ça qui sont mises en place et auxquelles on ne pense pas d'un premier abord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ça que les grands événements mettent en place et qui sont peut-être moins intuitifs et visibles?
À quel niveau?
Je sais pas justement, je cherche des idées. Est-ce qu'il y a en fait le fond de ma question c'est comment est-ce que un événement peut être le plus éco-responsable possible à partir du moment où il fait venir des gens sur son territoire potentiellement de loin? Quelles sont les actions? Est-ce qu'il y a des actions qui sont communes et qui sont peu visibles?
Mais c'est bien tout le problème auquel sont confrontés ces grands événements, que ce soit le Marathon des Sables, la Réunion, parce que suspendu à l'aérienne déjà, c'est l'événement aujourd'hui qui a la plus grosse empreinte écologique, loin devant l'Ultra Trail du Mont Blanc, et pourtant l'Ultra Trail du Mont Blanc n'est pas un exemple d'écologie réussie, même s'ils font plein d'efforts au niveau des déplacements une fois sur place, ils ont un plan de transport. Ils ont un discours éco-responsable depuis le début, dans une vallée extrêmement polluée, et avec de plus en plus de monde qui vient des quatre coins de la planète. Ils ont une mondialisation de leur public qui est bien plus importante que celle de la Réunion. Mais comme à la Réunion, la moitié des gens viennent en avion, plus les spectateurs et les accompagnants, enfin les gens qui viennent avec en famille, faudrait, j'ai pas les moyens de faire une comparaison précise en kilos, en tonnes carbone, mais bon, voilà, c'est des événements qui, quel que soit le discours qu'ils peuvent tenir, ne sont pas forcément exemplaires sur le plan environnemental. C'est une évidence. Pour être davantage éco-responsable, il faudrait qu'il soit beaucoup plus sobre sur le plan de l'environnement, à travers les transports, les déchets, l'alimentation, les boissons, tout ce que tu veux. Mais aussi, pour moi, l'éco-responsabilité, elle n'est pas que sur l'environnement, elle est sur le social et sur la dimension inclusive, sur le prix d'accès à l'événement, les dossards, le coût des hébergements, etc., etc. Donc, toute la dimension inclusive, sociale, mais aussi la dimension culturelle, le respect du patrimoine et la dimension économique, en privilégiant une économie plus, je dirais, redistributive, solidaire, et non pas une économie qui va faire des profits toujours aux mêmes acteurs. Donc moi, je travaille beaucoup aujourd'hui sur comment dépasser la charte ou l'éco-gobelet, mais sur un vrai cahier des charges qui critérise un certain nombre d'indicateurs pour voir, avec des échelles de points qu'on peut marquer sur chaque indicateur, pour voir au final le niveau d'éco-responsabilité atteint. On est sur une démarche, sur un processus, hein, c'est clair, dans lequel il faut essayer de progresser d'année en année. Ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est passer du déclaratif, de la charte, du greenwashing, à comment je réussis à construire un cahier des charges qui prenne en compte le maximum d'actions possibles que je peux mener dans un processus, année après année, sur mon événement, en me faisant évaluer chaque année par quelqu'un d'extérieur, parce que sinon, c'est extrêmement subjectif. Et moi, là, actuellement, je travaille sur 2-3 trails en France sur cette question-là, pour les années à progresser sur ce registre, qui est un vrai sujet, un vrai chantier aujourd'hui.
Ouais, c'est intéressant, parce que le label, par exemple, Trail Runner Foundation, qui est intéressant, mais je trouve qu'ils ne vont pas assez loin, en fait, dans le...
Non, mais moi, c'est ça, je trouve qu'ils ne vont pas assez loin du tout. Ils restent sur des grandes conseils, considérations, mais ils vont pas assez loin, c'est clair.
C'est pour ça que le Grand Raid du Finistère n'y est pas, parce que...
Non, mais charte, tout ce qui est charte et label, ça va pas assez loin. Il faut vraiment travailler sur des cahiers de charges et réaliser des études de retombées économiques, sociales et environnementales. Et c'est qu'à partir de là qu'on va voir où on est bon, où on est moyen, où on est mauvais, où on peut progresser, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. Donc... aujourd'hui, chaque événement essaye de grappiller des idées à droite, à gauche, mais il n'y a pas une vraie démarche. Donc, comment établir cette vraie démarche? C'est un travail de scientifique. Et après, il y a des circuits qui se créent, le circuit trail by train, ou le World Major Trail, là, où il y a des grandes déclarations avec le Swiss Canyon Trail, hein, sur l'environnement, l'éthique, la sobriété. Mais c'est pas en se déplaçant aux quatre coins de la planète qu'on va résoudre le problème. Et quand je vois l'éco-trail qui est déjà à 8000 inscrits et qui pense à en avoir le double, il n'a d'éco-trail que le nom.
C'est hyper intéressant, parce que sur le Grand Raid du Finistère, je suis sur toutes les zones protégées du monde. On a Natura 2000, Conservatoire du Littoral, Parc National Régional, plus l'Office National des Forêts et d'autres organisations un peu plus indépendantes, des associations. Et donc forcément, on est soumis à un nombre de participants qui est très réduit, restreint, et ça donne un peu un côté familial à l'événement, et qui est très chouette et qui me plaît beaucoup. Et c'est vrai que quand on voit le voisin qui arrive à plus de 10 000 participants, on se demande comment c'est possible et d'en arriver là, quoi, et où est la limite là-dedans, quoi. Est-ce que
Mais si tu veux, moi je pense que tu te poses effectivement les bonnes questions. Je pense que aujourd'hui il va falloir installer davantage de contraintes et de dire aux organisateurs, voilà, de par la zone dans laquelle vous êtes, et plus il y a de zones protégées, plus il faut aller dans ce sens, il faut limiter le nombre de coureurs. Il faut mettre des limites, quoi. C'est pas c'est pas open sans arrêt. Quand je vois là, toi, j'étudiais sur la Réunion. Si tu prends depuis le début le nombre de coureurs, si tu cumules toutes les courses, mais c'est énorme. Cette année, il y avait pour la première fois plus de 7000. On a passé la barre des 7000 inscrits sur les quatre courses. On est à 10 000 à Chamonix. On est à 15 000 au Templier, qui est dans la même logique. C'est une logique du toujours plus. Ils cherchent à rentrer le plus d'argent possible avec les dossards. Comme ça, ça les met un peu à l'abri s'ils ont des problèmes de sponsors. En plus, ces événements-là n'en ont pas. Donc, tout ça, c'est quand même de la recette. Alors, quand on est associatif, c'est pas du profit. Donc, c'est ce qui fait la différence entre le Grand Raid et l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui lui est une histoire de profit, hein, on le sait bien. Donc voilà, moi je pense qu'il faut aussi peut-être se dire que ces grands événements-là, eh bien, l'organisation interdit de s'inscrire, par exemple, plus de 3 fois. Vous l'avez fait 3 fois. Nous, on ne veut pas que les effectifs augmentent, mais on veut laisser la possibilité à d'autres personnes de le faire. Vous ne pouvez pas être égoïste et penser qu'à vous. Donc voilà, on limite le nombre, on limite le nombre de fois. On limite peut-être aussi, peut-être qu'un an sur deux, on peut aussi jouer sur le temps. Un an sur deux, pas tous les ans. On peut aussi jouer sur l'espace avec des départs et des arrivées à d'autres endroits que toujours au même endroit, ce qui permettrait une équité territoriale plus importante. Donc, il y a plein d'idées comme ça. On peut faire des prix qui décroissent en fonction des prestations que l'on choisit. On peut, comme vous le faites vous sur le Grand Raid donc du Finistère, demander aux gens d'être autonomes sur leur ravito, sur leur alimentation. Voilà, c'est plein de petites mesures comme ça qu'on peut mettre en œuvre. On peut démarketer aussi, on peut moins communiquer. Voilà, moi j'ai listé une vingtaine de mesures qu'on peut mettre en œuvre pour rentrer dans cette démarche là.
Mais en même temps, et je te le disais en off avant l'enregistrement, l'objectif du podcast c'est d'inciter justement mes contemporains à se bouger, à se défier. Et on sait que l'inscription à un événement, ça va engager le coureur sur potentiellement plusieurs mois. Et du coup, ça veut dire que si on limite le nombre de participants, ça veut dire qu'on va limiter le nombre de dossards que les gens vont pouvoir prendre au total et peut-être moins inciter les gens à se mettre au sport. Donc, c'est un équilibre quand même qui est à trouver pour que tout ça soit harmonieux.
Je pense pas, François, dans la mesure où ce qui va permettre les gens au sport, c'est pas la possibilité de participer à ce type d'événement. C'est une éducation physique de la maternelle jusqu'à l'université. Même l'université, c'est déjà trop tard. Je pense que le rapport positif et durable que tu peux créer à la pratique sportive, il se construit dès le plus jeune âge, à l'école, dans ta famille, dans les clubs. Donc ça, c'est vraiment totalement autre chose. Par contre, aujourd'hui, limiter la possibilité de s'inscrire à un événement, c'est aussi peut-être permettre à d'autres de se développer un petit peu plus et qui aimeraient, mais qui ont du mal. Donc, c'est peut-être aller vers une meilleure distribution de la demande, un meilleur équilibre sur l'ensemble d'un territoire. Et un département devrait veiller à ça, par exemple. Il y a des régulations qui ne se font pas et qui devraient se faire. On ne peut pas laisser la logique économique du profit tout régenter. On doit aussi réfléchir à comment peut-être donner plus de chance à certaines courses qui sont sur des territoires qui sont peu attractifs aujourd'hui de l'être davantage en les aidant. Voilà, moi je pense que si quand moi j'entends les amateurs du Grand Raid dire si on diminue, aujourd'hui on est à 7000 au total et ils frisent les 3000 inscriptions à la Diagonale. Pendant longtemps c'est resté en dessous des 2500. Ils avaient limité à 2500. Ils ont dépassé ça. Moi, je leur dis, il faut même redescendre à 2000. C'est trop de 2500. Et là, 7000 au total, le stade de la Redoute, je sais pas comment tu l'as vécu. Mais moi, ça fait 20 ans que je vais à la Redoute. C'était plus la fête familiale d'autrefois. C'était la foire du trône. Donc, c'est l'événement qui perd son âme. Ils tiennent un discours sur le côté humain, l'âme de cet événement-là. et il laisse s'accroître les effectifs, notamment sur les trois autres courses qui gagnent beaucoup plus de terrain encore que la Diagonale. Trail de Bourbon, la Mascareigne et les Embrocal Trail. Donc, attention. Attention à ça. Je pense qu'il faut arriver à se dire comment je limite. Et si jamais les dossards sont pas suffisants pour équilibrer un budget, parce que c'est leur argument, eh bien, demandons à la puissance publique de financer davantage l'événement et de participer ainsi à la transition environnementale. Parce que s'il y a moins de monde qui vient, c'est moins de monde qui prend l'avion. Mais bien entendu, en face, tu as le lobby des hôtels, des restaurants, des transporteurs, qui eux, plus il y a de monde qui vient, plus ils font d'argent. Donc c'est un problème de couplage, découplage entre logique économique, logique sociale, logique environnementale. Et tout l'enjeu, il est là.
Ouais, puis on peut difficilement demander à une collectivité de supporter des frais qui sont dus à moins d'inscrits.
Et si cet événement s'inscrit dans leur si leur politique elle est sur d'améliorer la transition environnementale, et si mon événement va dans ce sens-là, je peux demander à être un peu plus subventionné parce que je m'inscris dans la politique de cet événement. Aujourd'hui, un événement, il peut pas aller contre la politique du territoire dans lequel il est inscrit. Sinon, il se finance tout seul à l'aide du privé. Tu vois? Mais tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
Après, les événements qui sont ultra subventionnés plutôt que sponsorisés par les collectivités, il n'est pas non plus excessif et énorme parce que quand je discute avec d'autres organisateurs de trail modestes, bon, les subventions qu'ils touchent sont souvent c'est peanuts quoi. Ils passent plus de temps à faire le dossier qu'à compter les sous quoi.
Oui, mais justement, peut-être qu'il faut. Mais c'est parce que aussi aujourd'hui il y a trop d'événements, tout le monde veut sa course. Pourquoi? La question c'est pourquoi on organise un événement. C'est qui est à l'origine? C'est quoi son objectif? C'est quoi les profits qu'il en retire, financiers, symboliques? Faut se poser la question du pourquoi, la question du sens. Quel sens ça a de toujours créer plus d'événements? C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une instance de régulation. Et aujourd'hui un département, il peut pas financer tout le monde. Effectivement, il y a une baisse des financements publics. Donc, ça veut dire avoir une vraie politique, faire des choix et dire voilà, votre événement, ben, on le subventionnera que si, il répond à tel et tel critère. Et l'autre, ben, non. Donc, vous disparaissez, ou vous autofinancez, vous allez chercher des partenaires marchands. Voilà. Je pense qu'il faut repenser complètement la question de la création et de la régulation des événements sportifs. L'éco-responsabilité, c'est pas qu'un mot, c'est aussi toute une démarche.
C'est un équilibre qui est subtil mais la démarche de la création de la charte ou du moins des actions concrètes que tu souhaites mettre en place sur lesquelles tu travailles, c'est hyper intéressant parce que au moins on a des réponses concrètes, des mesurables, chiffrables. Qui vont permettre d'aller dans le bon sens, quoi, parce que exactement. Là, si chacun il veut être un peu son truc.
Qui vont permettre après à l'événement d'être davantage demandeur et exigeant vis-à-vis de son financeur. Je travaille sur le Var Verdon Canyon Trail, par exemple, qui pendant des années a été au sommet, quand il s'appelait la Grande Course du Verdon ou l'Ultra Trail du Verdon, et après il a commencé à baisser. Ils ont été chercher le département pour s'en sortir. Sauf que le département, il leur a dit ok, moi je veux bien vous aider, les gars, mais. Il faut que vous innoviez sur votre concept. Du coup, eh bien, on travaille sur la dimension éco-trail. Et là, le département, il se dit, OK, ça nous convient, et il les aide davantage, mais aussi parce que ce nouveau positionnement les a amenés à avoir plus de coureurs, tout en gardant une limite, une jauge, à ne pas dépasser les 1000 coureurs sur les quatre courses. Donc voilà. Donc tu vois, je pense qu'il y a un travail à faire avec le financeur pour voir dans quel sens il veut aller pour essayer de trouver un équilibre et des accords et une cohérence en fait, je dirais, entre le concept et le partenaire.
Et pour mettre tout ça en place, ça demande des compétences, du temps. Est-ce que tu as vu une tendance à la professionnalisation du métier de l'organisation ?
Alors aujourd'hui, elle commence effectivement à poindre à travers des formations de type des DU Trail, comme il y en a un à l'université de Grenoble,
que j'ai fait,
des diplômes universitaires qui sont vraiment centrés sur le trail et l'organisation et le management de trail. Sur le ministère, ça c'est plutôt université, le ministère jeunesse et sport, je pense qu'il y a des choses aussi qui se font à travers la Fédération française d'athlétisme. Donc il y a bien ce besoin qui aujourd'hui émerge, mais il est loin d'être comblé, satisfait, dans la mesure où on a beaucoup d'empirisme et d'amateurisme, et que la plupart des organisateurs organisent des événements par passion. Ils ont été eux-mêmes coureurs et ils ont envie de continuer de leur passion en tant qu'organisateurs. Ils ont envie de faire connaître leur territoire qu'ils aiment. Ça, c'est une logique, je dirais, sportivo, passionnelle, très publique, très territoriale. Et puis, il y en a d'autres qui font ça pour faire du business. On le sait très bien. Et on a ces deux grands types d'organisateurs qui sont aujourd'hui dans le champ et qui cohabitent plus ou moins bien.
L'organisateur qui fait ça pour le business, il est un peu mal vu. Pourquoi ? Parce que quand on organise un concert... Ça va, c'est OK de vivre de ça. Un festival, on n'est pas choqué de voir que les organisateurs du festival vivent grâce à l'organisation de leur événement. Pourquoi est-ce que les organisateurs de course à pied qui sont professionnels sont mal vus?
Alors, si je prends Amaury Sport qui organise le marathon de Paris, quand on voit ce qui est devenu le marathon de Paris, ils ont beau le verdir, et on est à 50 000 arrivants, donc on est presque à 60 000 inscrits. On ne peut pas dépasser certaines. Ils sont mal vus lorsqu'ils dépassent certaines limites. C'est-à-dire, les critiques du marathon de Paris n'ont jamais été aussi importantes que l'année dernière, les critiques de l'UTMB n'ont jamais été aussi importantes que l'année dernière, parce qu'à un moment donné, la logique du business les amène à dépasser les bornes, les limites. Et du coup, là, ils créent beaucoup d'externalités négatives sur leur événement, pour maximaliser la logique économique. Ce qui leur fait perdre en image, voilà. Ça c'est clair. Mmh. Alors après, moi je m'intéresse pas aux grands événements culturels type concert, mais je pense que ils vont être dans la même ligne de mire, c'est-à-dire que on va pas pouvoir aussi continuer à. Moi je vois le festival de jazz à Marcillac là, qui est près de chez moi, qui attire énormément de monde. Il commence à y avoir aussi une critique de certains acteurs locaux qui trouvent que ça perturbe trop l'écosystème. Hein. Ils ne vont pas être à l'abri. Alors pourquoi le sport l'est davantage aujourd'hui que de grands événements culturels ? Je ne sais pas, il faudrait faire une étude comparative. Peut-être parce qu'ils sont plus médiatisés, encore que franchement, je ne sais pas. Mais c'est vrai que les Jeux Olympiques, comme le Tour de France ou la Coupe du Monde, le football, surtout lorsqu'elle se déroule au Qatar, mais même Coupe du monde de rugby en France, ou les futurs Jeux Olympiques de 2030 d'hiver. Enfin, là, on est dans le plus grand des délires. On perpétue le toujours plus, alors qu'il faudrait être dans le moins. Quoi. Voilà.
Tu crois que c'est possible réellement d'aller dans le moins ?
Mais c'est très difficile parce qu'on s'est habitué à un modèle de. Parce que ça remet en cause notre modèle de consommation, tout simplement. On a toujours consommé plus et on a été habitué à vouloir toujours faire plus. Et même quand tu demandes comment l'événement s'est passé, le critère numéro un, c'est il y avait du monde. Donc, cette notion de monde, de gigantisme, de toujours plus de monde, la qualité comme si la qualité de l'événement se faisait au nombre. Non, elle se fait à la qualité de l'accueil que tu offres aux gens qui viennent, la qualité des prestations que tu leur offres. Ça, c'est la vraie réponse de si un événement a bien marché. Mais c'est comme quand on annonce les chiffres du tourisme en France, on te parle jamais de la qualité touristique. On te dit voilà, il y a eu plus de touristes, et surtout plus de visiteurs étrangers, ce qui amène plus d'argent dans la balance commerciale. Donc tant qu'on raisonnera uniquement sur une logique économique en découplage complet avec la logique environnementale, sociale, culturelle et humaine, on restera dans ce prisme-là, quoi.
Avec sur des... le Grand Raid du Finistère, il y avait un élément qui était important pour moi, c'était la note que les coureurs donnaient à l'organisation. Oui. Et ça, c'est un truc que je mets en avant maintenant, comme la note est bonne. je le mets facilement en avant avec le petit 9,4 sur 10 qu'ils nous ont donné les coureurs. Et je suis très content de mettre ça en avant.
Hein, ils ont donné combien en moyenne?
9,4 sur 10.
Alors, après, ouais, toi, tout dépend des critères. Chaque événement, lorsqu'il fait ce genre d'évaluation, utilise les critères qu'il veut. Il n'y a aucune harmonisation, donc on peut difficilement comparer une note d'un événement mise à un et une note mise à un autre, puisque les critères d'appréciation ne sont pas les mêmes. Mais il en demeure que 9,4 sur 10, c'est un bon score. Voilà. Tu vois ce que je veux dire.
Si j'étais revenu avec cette moyenne-là quand j'étais étudiant, mes parents auraient été contents. Hein.
oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que faut faire attention aux chiffres, parce que c'est toujours relatif comment ils sont fabriqués. On est encore dans une logique quantitative pour apprécier les choses, tu vois.
Oui, bien sûr. C'est marrant parce que ce que tu dis sur le nombre de coureurs, c'est incroyable. C'est un peu qui aura la plus grosse. Et à chaque fois, on demande il y a combien de participants? Ah ouais, 1003. Ah ouais. Bah ouais. Mais en fait, vaut mieux 15 services pour 100 coureurs que un service pour 1000 coureurs, quoi.
Exactement. C'est ça.
Et ça fait tout autant de travail pour l'organisateur qui apporte tous ces services-là, quoi.
Je pense que là, on est à un point de bascule. C'est-à-dire que la tension, la loin tension qui existe aujourd'hui au niveau d'un événement entre finalement augmenter son pouvoir d'attractivité pour un territoire parce qu'il va faire venir du monde. Et donc, s'il fait venir du monde, il génère du flux économique, de l'emploi, et il est bien vu par les acteurs locaux, et la contrepartie éco-responsable qui est de dire ah, oui, mais attention, parce que à trop créer de flux, eh bien, on génère des externalités négatives.
Est-ce que tu peux revenir sur les résultats de tes études sur qu'est-ce qui est important pour un coureur quand il vient sur un événement?
Alors, Il y a plusieurs choses, hein, mais ce qui est, à mon avis, extrêmement dominant, c'est l'accueil. C'est l'accueil, c'est l'humanité qui est... c'est ce qui fait le succès du Grand Raid aujourd'hui, ce côté humain. Voilà, il est pas un numéro, il est pas standardisé, il est singulier. C'est-à-dire qu'on est vraiment... Les ordinateurs ont le souci de l'accueillir du moment où est-ce qu'il arrive au moment où est-ce qu'il repart. C'est-à-dire que ils vont le mettre dans des conditions, ils vont lui offrir des prestations, ils vont le conseiller, ils vont l'accompagner ou le laisser libre de se débrouiller. Ce qu'elle veut, la personne, finalement, c'est être à la fois accompagné, sécurisé, parce que si on participe à un événement, c'est qu'on veut de la sécurité. Autour du Mont-Blanc, on pourrait le faire tout seul. Le Marais de la Réunion aussi, mais... on veut être sécurisé et puis on veut être surtout dans une grande communion médiatisée. Hein. Donc voilà, c'est ça qu'il recherche, mais en même temps, il veut aussi être libre de ses mouvements, c'est-à-dire de choisir quand est-ce qu'il arrive, quand est-ce qu'il repart, où est-ce qu'il va dormir, qu'est-ce qu'il va manger, s'il vient seul ou accompagné, s'il a envie d'être licencié ou pas. Donc je pense que ce qui fait aujourd'hui le succès d'un événement, c'est l'équilibre qui peut paraître paradoxal entre finalement, la liberté d'action que peut avoir la personne, à laquelle il tient, parce que c'est son mode de vie qui cherche à être comme ça. On cherche aujourd'hui à être le plus libre, même si on se met de plus en plus de contraintes, ce qui est quand même assez paradoxal, tu vois. Et ce côté organisation. Ces grands événements sont des organisations, ce sont des aventures, mais extrêmement organisées, sécurisées, domestiquées, balisées. Voilà comment je pourrais expliquer ça.
Ouais, c'est un paradoxe. C'est vrai que c'est un paradoxe et c'est une gymnastique, encore une fois, qui est assez complexe à gérer pour l'organisateur, mais en tout cas...
Oui, tout à fait.
En tout cas, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il y a quand même pas mal de boîtes qui ont vu que l'organisation avait besoin le milieu de l'organisation avait besoin de se professionnaliser, qui trouvent des solutions, qui proposent des choses pour améliorer l'expérience des bénévoles, des partenaires, de tout ce petit monde là. Et en tout cas, c'est un monde qui est en vrai mouvement.
Oui.
Et côté participant aussi, il y a de belles choses qui, à mon avis, se feront. Et comment est-ce que tu vois, si tu avais une petite prédiction à faire, comment est-ce que tu vois ce monde évoluer, et si tu avais une tendance que tu aimerais dessiner, comment est-ce que tu... Enfin, admettons, si tu devais décrire un UTMB dans 20 ans, comment ce serait?
Attends, c'est difficile, une excellente question que je me suis pas posée. Ça demande de faire de la prospective. Hein. Faut croiser les données, les différentes enquêtes, les différentes prévisions démographiques, économiques, sociologiques. C'est très difficile de répondre à cette question. Je t'avoue que l'UTMB dans 20 ans, est-ce qu'il existera encore? C'est la première question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il sera toujours dans cette même logique, ou est-ce qu'il aura mis de l'eau dans son vin? Est-ce qu'il aura finalement essayer d'être un peu plus écologique qu'il est, un peu plus social? Est-ce qu'on sera toujours sur une logique très marchandisée, médiatisée, mondialisée? En fait, voilà, je pense qu'il va aussi suivre l'évolution de la société. Et est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à remettre en cause notre logique économique, capitaliste, mondialisée, qui est sur une logique de profit et du toujours plus? C'est elle qui nous gouverne encore aujourd'hui, quoi qu'on en dise. Et donc, je pense qu'il sera l'UTMB, il sera aussi la résultante de ce que notre société, de la façon dont notre société aura évolué. Et est-ce que les exigences écologiques, la crise écologique, la crise sociale, la crise économique vont faire qu'on va changer de paradigme plus sensiblement? Ou est-ce qu'on va continuer à rester sur le même paradigme avec quelques petites adaptations à la marge pour se donner bonne conscience? Tu vois, c'est ça le développement durable aujourd'hui, le modèle néolibéral, c'est ça quoi. On est conscient qu'il faut faire attention, donc on cherche à s'adapter un peu, mais on ne remet pas fondamentalement en cause le modèle. C'est-à-dire que le dernier bouquin de Timothée Parik sur ralentir ou périr, on n'y est pas quoi, parce qu'il prône une forme de décroissance. Et on n'y est pas du tout.
J'ai du mal à y croire, moi, cette décroissance, à la capacité en l'être humain de réduire du bien-être, enfin des services et des ouais. J'ai du mal à y croire. Ça.
Oui, mais c'est le problème, c'est cette espèce de surenchère et d'inflation permanente. On a l'impression que le bonheur, c'est d'en avoir toujours plus, de faire toujours plus d'ultra-trail, toujours plus de courses. Peut-être qu'un ultra-trail ou deux par an, et non pas trois ou quatre, voire même cinq. Je lisais une enquête sur la Réunion. Là. Les gens qui font l'ultra-trail, d'après ce qu'ils disent, ils auraient fait sept trails avant pour se préparer dans l'année. C'est énorme, tu vois, en moyenne. Quoi. Donc, je comprends pas qu'on puisse en faire autant, quoi. Mais bon, en même temps, tu as les champions qui ne donnent pas une bonne image. Mais bon, eux, après, ils sont boostés par leur... obligés par leur partenaire. Mais quand on enchaîne Trail du Mont-Blanc et la Diagonale, c'est pas donné un bon exemple en termes de récupération.
C'est vrai que c'est des cas particuliers avec des performances physiques.
Ben oui. Et puis du coup, s'ils ne sont pas bien, ils s'arrêtent, abandonnés, parce qu'on ne va pas gagner. C'est un peu contre l'esprit du sport, ça. Donc moi je trouve que les dérivées économiques elles sont encore extrêmement fortes et que notamment sur les événements les plus connus. Après il y a d'autres événements comme le tien, je pense, Marvel du Finistère, mais d'autres, hein, l'échappée belle, Swiss Canyon Trail, UT4M, la Diagonale catalane, enfin j'en oublie là, mais qui sont en train de réfléchir à d'autres modèles, ouais, et à arrêter de vouloir croître pour amorcer une forme de décroissance. Il faut décélérer. On a accéléré pendant des années. Aujourd'hui, il faut décélérer. Mais vraiment. Sous peine de polluer encore plus, quoi. L'événementiel est à la croisée des chemins, là. Il doit vraiment réfléchir à devenir beaucoup plus éco-responsable. On ne pourra pas continuer sur la même logique, même si certains continuent à le faire, mais voilà, je pense que. Alors, ça peut être très modeste au départ, mais il faut vraiment essayer d'être un peu moins empirique et plus scientifique, entre guillemets, en se faisant accompagner. Je pense que c'est important pour gagner en expertise. Voilà. Il y a un manque d'ingénierie, sportive, touristique, événementielle, globalement.
Bah, c'est vrai que personnellement, j'avais créé le Grand Raid du Finistère pour mettre en avant la Bretagne comme terre sportive et culturelle. C'est comme ça que je l'avais vendu, que je pitchais ça. Et je suis en train de repenser à cette phrase que je dis et que je répète à qui veut bien l'entendre. Et parce qu'en fait, je me suis rendu compte que déjà la majorité des coureurs qui avaient participé l'année dernière, bah, c'est des coureurs qui connaissent déjà la Bretagne, parce qu'ils y sont. Et en fait, dans une démarche justement de déco-responsabilité maximale, est-ce que inciter un coureur qui viendrait de l'autre bout de la planète, ça a vraiment du sens? Je suis pas convaincu. Alors ça veut pas dire qu'on ferme les frontières et que les coureurs qui viennent des Alpes ne sont pas les bienvenus, mais au contraire, voilà.
Ouais, mais t'as raison, faut décroître avec la clientèle locale, mais faut aussi décroître en ne communiquant plus à l'étranger. Là-dessus.
Il y a des sites d'ailleurs qui ont fait le choix justement de ne pas mettre leur site internet des courses qui ont fait le choix de ne pas mettre leur site internet en plusieurs langues, justement pour ces raisons.
Exactement.
C'est des petites actions comme ça qu'on n'imagine pas que font les organisateurs. Olivier, on arrive déjà à plus d'une heure d'échange c'est vraiment passionnant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter à notre échange?
Non, je pense qu'on a déjà eu un échange extrêmement, extrêmement fourni. Juste peut-être pour essayer de terminer et de conclure en disant que la dynamique aujourd'hui du développement de la course à pied, elle est extrêmement riche, extrêmement diversifiée, extrêmement porteuse pour l'ensemble des territoires et même pour notre société, parce qu'elle génère quand même de la santé, elle génère une découverte des patrimoines culturels de la France et du monde entier. Donc je pense qu'il faut arriver à conserver cette dynamique, mais il faut peut-être l'équilibrer différemment, en se disant qu'on ne peut pas être dans toujours plus d'événements, et qu'il faut donc peut-être diminuer la voilure, et au sein de chaque événement, retravailler les équilibres entre l'économique, le social, le culturel et l'environnemental. Je pense que c'est une question d'équilibre et de mesure, d'harmonie, pour un peu échapper à la surenchère. Moi, je dis stop à la surenchère sportive, stop à la surenchère événementielle, en général, et dans la course à pied et dans le trail en particulier, il faut vraiment changer de fusil d'épaule, utiliser un nouveau prisme, réfléchir aux conséquences de notre événement, savoir pourquoi on l'organise, avec qui on l'organise, comment on l'organise, et pas uniquement être sur une logique quantitative de volume, d'argent. Voilà, c'est ça, moi, qui m'anime aujourd'hui, et je pense que les événements qui vont demain davantage réfléchir pour entrer dans cette logique-là auront une meilleure écoute à la fois de la part des coureurs, qui sont eux de plus en plus sensibles à cela, même si parfois ils s'assoient sur leurs principes. Je pense à tous ceux qui vont faire l'UTMB en se déclarant des grands écologistes, ou même à La Réunion. Donc je pense qu'il faut vraiment aller dans ce sens, et les coureurs vont nous y inciter, mais aussi les territoires qui commencent à se rendre compte que les événements génèrent pas mal d'externalités négatives et qu'on ne va pas pouvoir continuer à ce rythme-là, et surtout à financer autant vu la baisse des financements publics. Donc il y a des choix qui vont s'opérer, et je dirais que les formes d'éco-conditionnalité à respecter vont devenir de plus en plus importantes.
Eh ben, merci beaucoup, Olivier, pour ce moment passionnant. Où est-ce qu'on retrouve tes bouquins si on veut creuser sur certains sujets?
Ben, dans toutes les librairies, donc Courir, mes trois derniers ouvrages, donc Courir de 1968 à nos jours, tome 1, Courir sans entrave aux éditions Kern, qui est sorti en février 2022, qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies.
J'aime bien ça, dans toutes les bonnes librairies.
Le tome 2, Courir sans limite, qui va sortir là en mars 2024, aux éditions Outdoor, et non plus Kern. Donc Outdoor, c'est Trail Endurance, hein, un éditeur plus dans la communauté trail, qui m'a sollicité pour éditer mon tome 2. Et puis le tout dernier sorti entre les deux tomes, qui porte sur le Grand Raid de la Réunion, une faune diagonale aux éditions Orphi, qui est un éditeur réunionnais, qui a vraiment réalisé un gros travail d'édition. C'est un très bel ouvrage. Un kilo, 400 pages, 12 chapitres, 150 illustrations, et toute l'histoire de cet événement et ces enjeux qui représentent à la fois pour les coureurs. C'est un analyseur de cette fascination pour l'extrême, mais aussi pour le territoire de la Réunion qui est totalement imbriqué dans cet événement. Voilà.
Eh ben, je mettrai tous les liens dans la description, et puis ben nous on se retrouve bientôt peut-être sur un bel événement, hein, qui sait.
Ben oui, moi je serais très heureux d'aller voir à quoi ressemble le Grand Raid du Finistère.
Eh ben, tu es bienvenu.
On se reparle pour ça, parce que il me semble que à travers ce que tu m'as dit, tu as attisé ma curiosité, et je dois aller en Bretagne. Là. Toi, tu es basé où en Bretagne?
Moi, j'habite à Quimper, mais le Grand Raid du Finistère, c'est autour de la presqu'île de Crozon, dont je suis originaire.
Ouais. D'accord. Ben, oui, mais là, toi, je dois aller sur Rennes fin janvier. Donc, à voir si on ne pourrait pas.
Eh ben, avec grand plaisir.
À ce moment-là.
Très bien. Merci, Olivier. Et puis, chers auditeurs, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. Et on se dit à très, très bientôt dans un prochain épisode. À bientôt, Olivier. Oui.
Bien sûr, et merci à toi François de m'avoir sollicité, et bon courage pour la suite et bravo pour ce que tu fais.
Merci.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETRAIL, PLANETETRAIL. Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très bon footing, très bon trajet. Bref, ce que tu es en train de faire, je te le souhaite un très bon. Allez, à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.